Le journal, Claude Gousset.
Bonjour, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Les titres du journal, l'Union européenne décidée à continuer à aider la République démocratique du Congo pour la réussite des prochaines élections. Le général Morillon, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en RDC, recommande cependant la décentralisation des activités dans la procédure du choix des candidats et dans le dépouillement des résultats pour ne pas connaître le retard comme au référendum. Au Katanga, c'est ce samedi que sera inhumé l'abbé François Djikoulo, considéré comme martyr pour le retour de la paix au nord Katanga. Il a été tué alors qu'il offrait ses services de médiation pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Nous suivrons les témoignages des l'aumôniers de la police dans la province. À Goma, on parlera plutôt d'une bagarre entre deux prétendants préfets d'une école qui en sont venus aux mains en pleine cour de récréation. Pour l'heure, ils sont suspendus. Encore une fois, merci et bonjour. Bien que globalement satisfait du déroulement du premier round du processus électoral en RDC, la mission d'observation électorale de l'Union européenne formule un certain nombre de recommandations à l'endroit des Congolais afin d'éviter les écueils relevés lors du référendum. Hier, au cours d'une conférence de presse, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Congo, le général Philippe Morillon, a notamment évoqué la décentralisation des responsabilités, ceci pour gagner du temps au regard du retard pris dans le dépouillement et le comptage des voix après le référendum. On écoute le général Philippe Morillon au micro de Guy Maté.
Une des raisons qui a obligé à retarder la publication des résultats, c'est qu'il fallait avoir recours à la Cour suprême de justice pour valider ces résultats. Nous pensons que pour les prochaines échéances, il faut décentraliser les responsabilités, aussi bien pour la désignation des candidats qui se présentent. Si vous attendez que les décisions soient prises au niveau central ici à Kinshasa, vous allez prendre des mois avant même de pouvoir établir la liste des candidats. En aval, pareil. Si vous attendez de Kinshasa qu'il règle tous les problèmes au niveau de chacune des circonscriptions, deux mois après le premier tour, vous n'aurez toujours pas. C'est un avis technique que nous donnons là. Nous pensons que déconcentrer les responsabilités, faire appel aux cours d'appel locales, elles existent. Nos chefs coutumiers aussi, dont on connaît bien l'importance du rôle dans votre pays, pour déconcentrer et donc accélérer les résultats. Et c'est l'expérience du référendum qui nous a convaincus de cette nécessité.
C'était là le général Philippe Morillon, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il était au micro de Guy Maté. Disons, en bref, pendant ce temps, d'après une porte-parole de Javier Solana, représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, l'Union européenne étudie la possibilité d'envoyer une mission spéciale à l'occasion des prochaines élections dans notre pays, si l'ONU le demande expressément. D'après la porte-parole de Javier Solana, citée par l'agence France-Presse, dès lundi, M. Javier Solana, représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, aura des entretiens avec des responsables de l'ONU à New York sur cette question. Pour le moment, rapporte la même source, il est impossible d'estimer combien d'hommes l'Union européenne pourrait envoyer au Congo. Préparation aux élections au Parlement, où il y a eu ouverture de la session extraordinaire hier. L'examen de la loi électorale se fera la semaine prochaine, du moins au niveau de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé par le président de cette chambre basse du Parlement, Olivier Kamitatou. Les sénateurs, eux, vont examiner la loi budgétaire 2006, déjà votée à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette session extraordinaire prévoit en outre l'examen des lois sur les crédits provisoires et le code douanier. Bien que la situation est préoccupante, le Katanga connaîtra bien la paix d'ici la tenue des élections. C'est le vice-gouverneur du Katanga qui le promet. Chikes Diemou réagissait ainsi au rapport de l'ONG internationale Crisis Group. Dans ce rapport publié le 9 janvier dernier, l'ICG craint la cristallisation des conflits ethniques au Katanga lors des élections prochaines. L'ONG internationale d'analyse et de critique politique propose au gouvernement d'accélérer l'intégration des Maïmaï dans l'armée et l'éradication de la corruption dans le secteur minier. Pour le vice-gouverneur du Katanga en charge des finances, ce rapport de l'ICG exagère quelque peu la situation sur terrain. Chikes Diemou compte sur le renforcement des opérations FARDC MONUC pour réussir les élections dans cette zone. Il a été joint au téléphone par Jean-Claude Kumbakamanga. On l'écoute.
Je ne vois pas ce qui empêcherait les élections dans la mesure où le référendum et l'identification
ont eu bel et bien lieu. La situation reste cependant quand même un peu préoccupante dans les territoires de Mitoaba, là où on a pu circonscrire le danger. Il me semble qu'avec l'action du FARDC, soutenue par la communauté internationale à travers la population qui s'est déplacée à cause, n'est-ce pas, de combats pour chasser les bandits qui sont là, je pense aussi que la MONUC, à l'instar de ce qui est fait au nord et au sud Kivu, en conjuguant les efforts ensemble, donc je reste optimiste. Je crois qu'avant les élections, même la campagne, on aura parlé de cela un peu comme dans le passé.
Certains observateurs souhaitent notamment que vous fassiez partir des brigades qui sont au nord Katanga depuis 2001 pour les remplacer par des unités intégrées. Est-ce que vous pensez que ça serait aussi l'une des solutions?
C'est une des solutions, mais que voulez-vous? Nous avons une immensité de problèmes et au regard donc de la modicité des moyens qu'on a, il faut prendre un peu du temps aussi.
C'était la Chikez Diemou, vice-gouverneur de province du Katanga, chargé des finances, joint au téléphone par Jean-Claude Toumbakamanga. Il réagissait par rapport au rapport de International Crisis Group, une ONG internationale, sur la cristallisation des conflits ethniques au Katanga, des craintes pour les prochaines élections. Restons au Katanga pour parler de l'inhumation du prêtre de Manono, tué à Doubié par les Maïmaï de Gédéon. L'abbé François Djikoulo et son compagnon seront inhumés ce samedi à Lubumbashi. L'abbé François Djikoulo, on s'en souvient, avait voulu apporter sa contribution dans la recherche de la paix au nord Katanga en rencontrant le chef Maïmaï Gédéon, mais cela lui a coûté sa vie. On ne connaît pas encore les circonstances réelles de sa mort. L'abbé Faustin Lufunga, aumônier de la police, dont nous vous proposons le témoignage, estime que les autres jeunes du Katanga peuvent poursuivre l'œuvre de cet abbé du diocèse de Manono afin que la paix revienne totalement au Katanga. L'abbé Faustin Lufunga, au micro de Denise Maïomoisi.
Il n'est pas mort pour rien. Ce qu'il cherchait, c'était de garantir la paix au nord. Mais voyez comment Manono est détruit. Nous ne pouvons pas laisser seulement les jeunes gens s'enrôler dans l'armée, mais lui, en tant que prêtre, il voulait, en allant du côté de Maïmaï, voulant rencontrer Gédéon, c'était une manière de lui dire que, est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Je voudrais offrir une mission de bon office pour que la paix règne, mais il a trouvé la mort. C'était un grand sacrifice, hein? C'est quand même regrettable. Hein? Mais j'estime que c'est du fond de son cœur, c'était une conviction pour lui de se dire que, lui, en tant que prêtre, il pouvait faciliter à obtenir la paix. Dommage, il est décédé, ce dont nous regrettons.
C'était là le témoignage de l'abbé Faustin Lufunga. Il était au micro de Denise Maheo. Vive tension entre deux clans habitant autour du chantier minier d'exploitation de la cassitérite, chantier Kitamou, dans les territoires de Punia, au nord de la province du Maniema. Les Babokanya et les Bangato, deux clans rivaux, revendiquent chacun la propriété de cette concession minière. Le dernier incident en date a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 janvier dernier. Les autorités coutumières, politico-administratives et policières du territoire s'impliquent pour calmer le jeu. Un policier qui a requis l'anonymat et qui a fait partie de la mission sur terrain à Kitamou relate les faits. Il est au micro de Gabriel Wamenya.
Ils sont arrivés à 21h lorsqu'il pleuvait, en entonnant et en scandant les chansons au style propre au Maïmaï, tout en se déterminant qu'ils ne quitteront pas la carrière, tout en gira aussi entre la vie et la mort. Nous les avions demandé de rester calmes jusqu'à ce que nous arrivions au village. C'est là qu'on traitera ces problèmes. Ils étaient munis de machettes, de lances et de flèches. Nous les avions maîtrisés jusqu'à ce que nous les avions conduits devant l'administrateur du territoire. Ils ont ingéré les chefs d'antenne minier en brousse. C'est ce que je connais de cette histoire.
C'était là le témoignage d'un policier qui a fait partie d'une mission qui est descendue sur terrain dans le chantier minier d'exploitation de la cassitérite à Kitamou, dans la province de Maniema, où les Babokanya et les Bangato se battent pour le contrôle de la propriété de cette concession minière. À Goma, dans la province du Nord Kivu, c'est plutôt deux préfets prétendant assurer la direction d'une école musulmane qui en sont venus aux mains devant les élèves en pleine cour de récréation. L'incident a eu lieu mercredi dernier. Les responsables de l'enseignement primaire et secondaire de Goma ont décidé de les suspendre jusqu'à nouvel ordre. Charles Ntriisha nous explique le contexte de la bagarre.
Il s'agit de deux préfets qui se sont rués des coups car ils revendiquent l'un et l'autre la direction de l'Institut Mavuno, une des écoles musulmanes de Goma. Un des lutteurs est l'ancien préfet de cette école qui s'est vu remplacer il y a une année par une nouvelle équipe dirigeante de la communauté musulmane. Mardi passé, celui-ci, accompagné de son groupe, vient à l'école et fait sauter les cadenas des bureaux administratifs et les remplace par les siens. Le lendemain matin, celui qui ouvre les bureaux et inspecte les salles de classe. Il tombe nez à nez avec son successeur l'actuel préfet. Le temps monte, les deux hommes s'empoignent et commencent à se taper dessus. Ils sont séparés par les élèves. Saisi de l'affaire, l'inspecteur chef des poules de l'enseignement primaire et secondaire à Goma décide de suspendre les deux bagarreurs. Ce vendredi, trois inspecteurs désignés pour diriger momentanément l'Institut Mavuno ont commencé leur travail. Deux autres inspecteurs ont été aussi désignés pour gérer l'école primaire qui fonctionne dans les bâtiments de cet institut. Ils vont assurer l'intérim jusqu'à ce que la coordination des écoles musulmanes trouve une solution à ce problème. Charles Ndurgicha, Goma, Radio Kapi.
Toujours à l'Est, situation conflictuelle en Ituri, au centre universitaire extension de Bounia, tous les étudiants du premier graduat en économie sont suspendus de cours par les autorités académiques. Ces dernières, qui n'ont pas précisé la durée de cette mesure de suspension, reprochent à ces étudiants de l'indiscipline caractérisée, une accusation que les étudiants suspendus rejettent en bloc. Cela tourne autour des frais académiques. Cap à l'est du pays, vers le Bas-Congo, où hier, des transporteurs routiers et des déclarants en douane ont organisé une marche pacifique. C'était pour demander aux autorités de prendre des mesures adéquates par rapport à la hausse des prix de biens de première nécessité, hausse observée depuis le déclenchement de la grève des agents de l'ONATRE et de l'ECC contre le décret présidentiel confiant la gestion du guichet unique à l'OFIDA, suivant une recommandation d'un expert de la Banque mondiale par le COPIREP. Les transporteurs et déclarants qui manifestaient hier ont demandé que les offices de l'État en grève puissent organiser un service minimum au port. Le point avec Guy Roger Nyampal.
Ils étaient environ 60 personnes rassemblées au rond-point Londé dans la commune de Matadi. Parmi eux, des chauffeurs, des déclarants, des convoyeurs. Certains tenaient des affiches et autres calicots sur lesquels était inscrit « Nous voulons que le port de Matadi soit ouvert dans l'immédiat » ou encore « Le riz et la viande a augmenté ». Des prix à cause de la fermeture du port. Après avoir rédigé un mémorandum sur place, les manifestants ont pris la direction de la mairie pour déposer ces documents dans lesquels ils exigent la mise en place d'un service minimum au port pour libérer plus de 100 véhicules déjà chargés et ayant rempli toutes les formalités de sortie. Ils ont également évoqué les conséquences de cette situation sur le vécu quotidien de la population. De son côté, le maire de la ville de Matadi, Jean-Marc Zeidiou, a promis aux manifestants qu'une solution favorable ne sera trouvée qu'à l'issue de la réunion que le gouverneur de province Safadi Toumba tiendra dans les prochaines heures avec les délégués syndicaux de l'ONATRA et de l'OCC au niveau local. Guy Roger Nyampala, Matadi, Radio Okapi.
Retour à l'Est, au Sud Kivu, réouverture du bureau de la société civile depuis hier vendredi après-midi par le maire de la ville de Bukavu. Après une rencontre avec les deux tendances, le maire de la ville a ordonné l'ouverture du bureau de coordination sur le consensus des membres dans une rencontre coordonnée par le Conseil provincial de sécurité. L'équipe dirigée par Emmanuel Rougaraboura, président en fonction, demeure jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale en février prochain. On écoute Emmanuel Rougaraboura au micro de Adolphine Goy.
On s'est blessé mutuellement. Nous invitons tout cela qui peut-être par un ou l'autre mot a été blessé, qui puisse nous pardonner mutuellement, et que si nous devons aller à l'Assemblée générale, ça serait en équipe. La crise est terminée, il faut maintenant gérer les résolutions qu'on a prises en consensus pour que nous aboutissions à notre Assemblée générale, qui est le point culminant et le plus important.
Terminons ce premier journal du week-end au Congo-Brazzaville voisin. Un ressortissant de la RDC habitant Pointe-Noire a porté plainte contre un officier de l'armée du Congo-Brazzaville pour menaces, violences et voies de fait. Cet officier aurait enlevé et fait battre le menuisier RD congolais qui a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police de Pointe-Noire, comme l'explique Arsène Severin dans ce reportage.
Sandro Mabiala a été enlevé un soir de décembre à son atelier de menuiserie au quartier Long à Pointe-Noire par trois d'un capitaine de l'armée. Enfoui dans le coffre d'une voiture, l'homme a été soit battu au domicile de l'officier. Ce dernier même servi de son pistolet pour achever sa victime. C'est grâce à l'intervention de la police qui était espoir que Pambo Madiala aura la vue sauve. Le tribunal de grande instance de Pointe-Noire vient d'être saisi de l'affaire et accepte de lancer les poursuites contre les présumés coupables. Mais plusieurs observateurs donnent peu de chance à cette plainte car il faut d'abord lever l'immunité de l'officier. C'est pourquoi le président de la communauté des ressortissants de la RDC, Mbemba Kouloir-Mondele, qui s'est tellement rendu à Pointe-Noire, a informé toutes les autorités ministères de cette ville. Arsène Severin, Brazzaville, Radio Okapi.
Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-Claude Tiala qui a mis en onde ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Je vous laisse au bon soin. Bibi Bish Mbete. En attendant, jingle. Okapi. Okapi.
Merci Claude Boussé. Myriam et Amadou, deux chanteurs maliens.